Les passions de Camille avec Camille Chai.
Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une athlète paralympique en basketball. Alors, attachez votre tuque parce que ça va rouler avec Élodie Tessier. Et je reçois aussi le conférencier non-voyant et coordonnateur de travail de rue pour l'organisme Posa Source des Monts. Et c'est Monsieur Serge Savoie. Et c'est tout de suite à Les Passions de Camille. Élodie Tessier, bonjour.
Oui, bonjour Camille. Merci beaucoup de m'avoir, dans le fond, invitée, là.
Ben écoute, c'est un plaisir. Et même que c'est vraiment le plaisir est pour nous parce que tu nous parles en direct du Texas.
Oui, c'est exact. Présentement à Arlington, au Texas.
Magnifique. Est-ce que, ben en fait, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu es là?
Ben en fait, c'est ça. J'étudie à l'Université du Texas à Arlington en business. Puis je suis déménagée ici là en 2019 pour dans le fond là jouer pour l'équipe là, de UTA. Ça s'appelle les Lady Moving Math. Fait que dans le fond là, je m'entraîne au basket puis je fais mes études en même temps là.
Et tout ça, ça rime bien. Il y a pas de parce que je me dis s'entraîner c'est déjà un emploi, un travail à temps plein presque. En plus des études, tu t'en sors bien quand même?
Ouais, vraiment. Dans le fond. Le matin, on va, c'est bien coordonné entre les deux. Dans le fond, là, le matin, on va à nos cours, puis l'après-midi, là, notre horaire à nous est cédulé de 2h à 5h, on est sur le terrain. Là, fait que ça va super bien. Puis en plus de ça, on a des tournois là, durant la fin de semaine. Fait que ça va super bien.
Les tournois, vous en avez, est-ce que c'est à chaque fin de semaine ou presque?
C'est presque à fin de semaine, à chaque fin de semaine, mais là, à cause du COVID, dans le fond, là, c'est sûr qu'il y a une réduction. Là, c'est pas pareil comme les années précédentes. Mais habituellement, là, c'est à peu près aux deux fins de semaine. Là.
Mais donc, au Texas, il y a quand même beaucoup d'équipes paralympiques en basketball?
Ben dans le fond, c'est l'équipe collégiale universitaire. Fait que moi, je suis ici durant 8 mois, puis après ça, durant l'autre 4 mois, je m'entraîne avec l'équipe nationale. Là, habituellement, on centralise à Toronto durant l'été. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ici, c'est durant les saisons d'études, puis après ça, je retourne à l'entraînement du côté niveau national.
Pour ceux qui adorent le sport et qui adorent bouger, je veux dire, c'est idéal comme situation parce que, je veux dire, tu as 24 ans. Qui ne rêverait pas de faire carrière dans le sport et de continuer les études en même temps? C'est le meilleur des deux mondes, non?
Ah, totalement. Je pense que j'ai vraiment eu l'occasion de sauter sur l'opportunité. Puis, sincèrement, je vis un rêve. Là. C'est pas. Je pense que tu acquiers tellement d'expérience avec ce que je suis en train de faire en ce moment. Puis, en plus, c'est ma première fois à étudier en anglais. Là, puis je m'en sors très bien. Fait que je pense que c'est vraiment. Ça va être un atout pour plus tard aussi dans ma carrière là, professionnelle là, pour tout ça. Là.
Sans aucun doute. Parce ouais. que tu es née à Saint-Germain-de-Grand-Tam.
Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai passé mon temps là-bas. Là. temps, là, ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est à l'est de Montréal. C'est à, je dirais à peu près quoi, environ 1h30 de Montréal, j'imagine. C'est
ouais,
proche de Drummondville. OK, oui.
Oui, c'est ça. C'est proche de Drummondville, c'est à peu près à 15 minutes en campagne. Là. C'est ça.
Et est-ce que tu peux nous parler de ton handicap? Parce que tu es athlète paralympique en basketball.
Mm-hmm. Oui. Dans le fond, moi, je suis née avec une malformation squelettique. Je mesure 3 pieds 9. Dans le fond, je suis comme considérée comme naine. Mais toutes mes membres, dans le fond, c'est juste mes jambes qui sont plus courtes. Là. Mes bras, ils sont d'une normalité là, correcte. Mm-hmm. Puis c'est un peu dur à expliquer par téléphone. Là, comme
On n'a pas d'image.
On n'a pas d'image. Mais sur les réseaux sociaux, là, vous pouvez me trouver assez facilement. Dans le fond, j'ai juste des jambes plus courtes, puis mes deux jambes ensemble est comme une jambe. Là. Fait que d'un côté, j'ai pas de genou, puis de l'autre côté, j'ai un genou. En tout cas, c'est très compliqué. Mais scientifiquement, je pourrais. Je serais pas supposée, mettons, de marcher, mais je le fais quand même. Fait que je suis assez autonome. Là. J'utilise un fauteuil, évidemment, pour les longues distances, étant donné que je suis petite puis que j'aime être à 100 000 à l'heure, là, comme j'ai expliqué plus tôt. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est bien ça.
Ça, est-ce que tu connais la cause de ta malformation? Est-ce qu'il y a une histoire de génétique ou plus loin dans ta famille?
Non, vraiment pas. Je pense que la vie a fait en sorte que je sois comme ça. J'ai une soeur jumelle aussi qui s'appelle Jessica. Elle n'a rien eu. Mais moi, je suis née avec une malformation squelettique. Puis c'est la vie. Écoute, on fait en sorte qu'on continue comme ça. Il n'y a aucun non.
Est-ce que t'as, parce que je veux dire, quand on t'entend parler, en fait, tu nous fais clairement comprendre que tu es très bien dans ta peau, que tu acceptes ton handicap, mais est-ce que ça a toujours été le cas?
100% Camille. Écoute, moi, j'accepte vraiment à 100% présentement. Si ça a tout le temps été le cas, probablement pas. Écoute, je pense que c'est un processus, là.
Oui.
Quand tu grandis, tu vois les autres qui font d'autres sports. Tu sais, moi, je voyais ma soeur qui pouvait faire du sport, jouer au soccer, aller à la récréation, courir, tout ça. Écoute, moi, mes limitations étaient là. Fait que c'était un peu normal que je pouvais pas les faire. Fait que oui, il y avait, j'enviais qu'est-ce qu'elle pouvait faire, mais c'est un processus. Tu sais, moi, je travaille dessus, puis à chaque jour aussi, c'est comme ça. Là, présentement, je suis en acceptation de moi-même à 100%, puis c'est parfait, là, c'est...
Mais en même temps, je sais que, bon, je pense que c'était au secondaire, tu voyais peut-être les autres faire du sport ou faire des choses, mais toi, t'en as profité pour, comment dire, avoir tes propres bonnes sensations de vitesse, si je peux dire ça, ou d'être stimulé. Qu'est-ce que tu faisais?
Mais tu sais, mettons, plutôt à l'école secondaire, là, j'étais considérée comme la personne qui roulait vite dans le corridor avec mon fauteuil. Puis là, mes professeurs me disaient tout le temps de ralentir. Moi, je suis fille à 100 000 à l'heure.
Oui.
Si ça va au ralenti, j'aime vraiment pas ça. Quand j'ai un objectif, il est là, puis c'est
tu
tout bien, mettons. Là.
Donc, tes professeurs, toi, les professeurs dans les couloirs étaient là pour te freiner et dire, Elodie, ralentis.
L'agent de sécurité aussi, là, il voulait mettre des pancartes.
Excellent. Puis j'aime bien parce que tu nous parles de ta jumelle. Je sais que, bon, les jumeaux sont toujours très proches, très soudés. Mais j'imagine que, bon, t'as beau être jumelle, mais c'est une sœur aussi. Donc, comme n'importe qui a des frères et sœurs, je veux dire, comme tout le monde, on passe par, oui, des bons moments. Après, il y a des moments où on peut peut-être s'envier les uns et les autres. Est-ce que même on pourrait mettre le mot jalousie des fois dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu vivais avec ta sœur parfois?
Écoute, évidemment, là, tu sais, quand on a vieilli puis on est capable d'en parler présentement, là, quand on est ensemble, c'est sûr qu'il y a eu de la jalousie quand, en tout cas, de ma part, il y en a eu, j'imagine, de sa part aussi. Tu sais, il y a bien des affaires que je voulais faire, qu'elle, elle faisait, puis qu'il y a bien des affaires que moi, je faisais, puis qu'elle, elle voulait que vice-versa, mettons. Mais présentement, tu sais, on a vécu un peu à part aussi, là, parce que, tu sais, je suis déménagée à Toronto en 2015, en 2019, je suis déménagée au Texas. Fait qu'on a vécu un peu séparément, puis on a appris à se connaître séparément aussi. Puis là, quand on est de retour ensemble présentement, bien, c'est sûr que c'est la jalousie. Puis là, c'est plus d'apprendre à se connaître, d'être ensemble, puis de pouvoir partager qu'est-ce que de notre côté on vit. Puis ça, c'est vraiment super. Mais oui, il y en a eu. C'est évidemment, en tant que soeur et frère, il y en a. Puis
oui.
C'est juste normal. Là. Faut juste l'apprendre à l'accepter.
Bien, tu sais, je trouve ça très beau que tu en parles et que tu le dises comme ça, en toute simplicité, parce que souvent, c'est un sujet qui est tabou dans bien des familles, entre bien des frères et sœurs. Mais pour toi, non, tu t'en parles voilà, en toute simplicité.
Ah, 100%. Puis autant qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai passé les 10 derniers mois avec elle à cause de la pandémie, là, de mars à janvier, dans le fond. Puis tu vois, on n'a jamais une meilleure relation. On a appris à se découvrir autrement. Puis la jalousie n'est plus là. C'est plus le fait de partager. Puis c'est comme ma meilleure amie en ce moment. Là, fait que
oui.
Je pense que c'est vraiment important de progresser puis de vouloir, évoluer aussi. Là, c'est un peu... un processus.
Ben, c'est ce qui est magnifique, c'est que ça se transforme, ce sentiment, et ça évolue pour le mieux quand on vieillit. Puis donc, ça nous fait bien comprendre qu'en même temps, ta famille aussi, j'imagine, qui sont très importants pour toi, pour te soutenir, parce que tu es tellement engagée dans tout ce que tu fais, c'est très prenant. J'imagine que comme tout le monde, bon, des fois, tu as des moments où ben, tu as besoin de pouvoir compter sur des gens ta famille... Tu t'en passerais pas, non?
Non, exactement. Ma famille, c'est vraiment mon ma valeur numéro un. Sans mon papa, ma maman, puis ma soeur. Tu sais, j'aurais pas été ici. Puis même autant mes grands-parents, ils me supportent autant quand je les appelle par téléphone pour parler, puis de leur dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Là, ils sont oui. tout heureux de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, sans eux, je pense pas que je serais ici en ce moment aussi. Tu sais, ils me donnent la force de venir ici, de vouloir atteindre mes objectifs. Fait que, c'est sûr que sans le support moral de eux, ce serait pas la même affaire. Là.
Je suis sûre qu'ils doivent tous, sans exception, être très, très fiers de toi. On parle aussi d'une notion qui était intéressante avant l'émission, mais c'était la notion de l'équilibre, parce qu'ils t'aident, mm-hmm. eux aussi, à garder ton équilibre dans ta vie de tous les jours. Mm-hmm. Mais il y a une question que tu te poses en lien avec l'équilibre, c'est quoi?
Oui, effectivement. L'équilibre, est-ce qu'on l'a? T'sais, on pense qu'on l'a, mais est-ce qu'on l'a vraiment? Ça, c'est une question que j'ai vraiment essayé de travailler dessus, là. Depuis la pandémie, tu sais, c'est sûr que ça l'a changé un peu avec qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, mm-hmm. puis avec nous, avec tu sais, le retour à la maison pendant 10 mois, le fait de plus avoir accès aux gyms parce qu'ils sont fermés, tu sais, d'être contrôlé par toutes les restrictions, qu'est-ce qui est cause normale parce que c'est une pandémie, puis on veut vraiment contrôler la santé de tout le monde, mais tu sais, c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment tout le temps en équilibre? Tu sais, là, j'ai sorti un peu de ma routine, je me suis créé une autre routine évidemment, mais de savoir est-ce qu'on l'a l'équilibre, est-ce qu'on l'a toujours, parce que quand tu sors et tu n'as plus accès à qu'est-ce que tu as habituellement, comme que tu penses que c'était équilibré, ben tu te rends compte que ouais, est-ce que je l'avais vraiment. Fait que c'est une bonne question à se poser, puis d'essayer de trouver, mettons, là.
Mais tu sais, en fait, honnêtement, je pense que c'est une énorme question que beaucoup de personnes se posent. Et j'aime bien que tu amènes cette notion-là, parce que ça me permet de faire un parallèle. Tu sais, justement, toi, tu nous dis que tu as une jambe qui est plus courte que l'autre.
Exact.
Ben, la notion d'équilibre, elle se retrouve non seulement dans l'aspect physique, mm-hmm. de la chose, mais dans ta vie. Je veux dire, tu perds pas l'équilibre tout le temps, même si tu as une jambe plus courte que l'autre. Tu vois,
ah
ça,
non, pas du tout.
Et voilà, ça va beaucoup plus loin que ça.
Plus loin que ça. Mm-hmm.
Mais par contre, il nous arrive de perdre l'équilibre à tous à un moment ou à un autre.
Exact. Il faut juste la retrouver. Puis c'est important d'avoir support aussi pour la retrouver. Là. Tu sais, moi, mon support cette année, c'était ma soeur. Elle a été là pour moi, puis on a évolué ensemble. On est très différentes, puis je pense qu'on nous a apporté tous les deux quelque chose de très satisfaisant cette année. Fait que je suis bien reconnaissante de tout ça.
Mais c'est beau de t'entendre parler de ta famille et d'elle, de ta soeur. Mm-hmm. Et je pense que aussi une chose qui nous permet de garder notre équilibre, entre autres, c'est d'écouter de la musique.
Ah oui!
Alors, ben écoute, Élodie, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale, justement, on se retrouve après.
C'est parfait! Bonne écoute! And I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away. I've been on my own for a minute. Is it only me out there? Searching for the place to begin it. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given. People stare and ask me why I'm here. No one seems to think that I fit in. But I don't wanna be like them. No, 'cause I don't wanna be like them. 'Cause I know that I. And I had a dream that someday I would just fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I'd just fly away.
Merci Tonzena, et c'était la chanson Fly Away, et c'est une chanson que Élodie Tessier, tu adores.
Oui, exactement. c'est une chanson récente dans le fond là, que j'ai découvert, puis l'artiste là, l'a composée durant la pandémie, puis ça dit d'atteindre ses rêves, fait que c'est vraiment une chanson qui me parle présentement là, fait que c'est pour ça que je voulais jouer.
Mais merci pour ce beau choix, et là ben tu nous parles de rêve, d'atteindre ses rêves. Mm-hmm. C'est quoi ton plus grand rêve?
Ben, j'en ai plusieurs, évidemment, mais côté sport, c'est sûr, c'est de représenter là, le Canada aux Paralympiques. Ça serait vraiment un de mes objectifs. Tokyo est toujours là, puis sinon, là, Paris en 2024, évidemment. Là, vivre l'expérience des Paralympiques, ça, c'est vraiment mon plus grand rêve.
Puis même, je veux dire, là, t'as nommé tellement plein de choses, mais si on va un peu plus dans les détails, ça comprend quoi tout ça? Parce qu'on a beau nommer, tu vois, Paralympique de Tokyo ou Paris 2021-2024, mais d'ici là, je veux dire, il y a énormément de temps qui va se passer. Je veux dire, comment ça ressemble? À quoi ressemble ton horaire au quotidien? Tu nous disais avant la pause que, tu as les études et les entraînements, mais si on se concentre plus sur le côté sportif de la chose, pourquoi t'as choisi le basketball?
c'est sûr que là, il y a beaucoup de questions oui. Temps, mais pourquoi le basketball? Écoute, c'est sûr que moi, j'adore les sports d'équipe. Je suis une fan infinie d'équipe. Là. C'est sûr que j'adore le mouvement, la rapidité, la transition, les passes, le fait que tu peux... T'sais, il faut absolument dans le basketball en fauteuil roulant compter sur tes joueurs. T'as pas un spotlight sur quelqu'un. C'est tes 5, tes 12 filles sur l'équipe qui ont un impact sur ce qui se passe sur le terrain. Puis je pense que ça m'allume beaucoup. Encore là, c'est différent un peu pour tout le monde, mais c'est ça. Moi, je suis un peu plus. J'aime la défensive. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça.
Ce serait quoi ton plus grand défi ou ton plus grand obstacle? Je ne sais pas quel mot tu préfères là-dessus, mais sur quoi est-ce que tu travailles le plus en ce moment?
Présentement, c'est surtout l'offense. Mes lancers, quand on est à l'attaque, dans le fond, quand il faut que je prenne une shot, essayer de créer ma propre shot pour moi et non essayer de tout le temps regarder pour passer la balle. Parce que moi, j'aime ça faire des assists, j'aime ça passer ma balle, mettons, à quelqu'un puis qui score ça, là, c'est mon petit, ma petite prise sur le Sunday. Mais là, c'est vraiment d'essayer de performer, d'essayer de, c'est ça, là, de bonifier là, le fait qu'il faut que je crée ma propre shot à moi.
Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de facile dans le fait de se dire, bon, oui, ça procure une sensation qui doit être délicieuse de faire la passe puis qui va marquer le but,
ouais.
Mais quand tu te retrouves à la place de celle qui doit faire le but, justement, qui doit faire le panier, est-ce qu'il y a un stress ou une pression sur tes épaules à ce moment-là?
Dans le fond, on s'entraîne pour ça, puis c'est sûr que, oui, il faut faut t'en mettre dedans, là, c'est un peu normal. Mm-hmm. C'est ça le sport aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est tout un ensemble. Là. On pratique beaucoup, puis je pense que c'est juste répéter ta forme, la façon que tu shoots. C'est juste de la répétition, dans le fond. Là.
Est-ce que c'est facile de vivre dans la performance?
C'est une grosse question. c'est sûr que moi, j'ai besoin de performance pour... j'ai besoin d'être challengée pour pouvoir performer, puis je pense que chaque athlète, c'est comme ça. C'est sûr que quand, tu sais, comme je disais tantôt, je suis super une fille d'équipe. Quand je suis tombée individuellement un peu, je me perds. J'ai besoin d'être challengée, j'ai besoin de... je pense qu'il faut juste encore là un équilibre entre tout, puis c'est juste normal. Je pense que la performance, on en a besoin. Je pense que je suis rendue à un niveau où est-ce que j'en ai besoin. Puis c'est ce que je recherche, fait que c'est oui, c'est facile et c'est pas facile en même temps, là. Il faut que tu performes, fait que...
Oui, ça c'est le but, l'objectif le plus précis,
ouais.
Puis que vous partagez en commun dans toute ton équipe.
Ouais, exact, puis je pense que t'es rendu à un niveau national, c'est ça qu'il faut, puis
oui.
tu défous ta vie pour ça, puis...
Tu as combien de compétitions à ton actif? Est-ce que tu as une idée du chiffre?
Ah, boy, non, pas du tout. C'est sûr que une grosse compétition qui vient de passer, dans le fond, c'est les Jeux parapanaméricains qu'on s'est qualifiés pour Tokyo. Puis ça, c'était vraiment un gros tournoi parce que j'ai appris de l'expérience, tout ça. Puis écoute, on a gagné contre les États-Unis, fait que on a fini premier. Donc, pour moi, je suis vraiment fière de ce tournoi-là. Là.
Est-ce que ça te fait découvrir quelque chose sur toi en tant que personne? Tu sais, j'aime bien formuler mes questions d'une façon différente, si ça peut t'amener ailleurs, mais qu'est-ce que ton sport te fait découvrir sur toi et sur la vie?
Oh my God, beaucoup, beaucoup. Autant que, tu sais, toute l'expérience que j'acquire en ce moment avec le sport, ça peut être relatif avec ma carrière professionnelle aussi. Tu sais, moi, je suis en business. Je pense que de comment communiquer avec les gens, de comment, tu sais, émotionnellement, tu sais, être capable de gérer le stress, être capable d'être constant. Tu sais, il y a beaucoup, 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 là, autant de prendre soin de toi, de bien dormir, de bien manger. Il y a d'être capable physiquement, mais aussi émotionnellement de performer. Tu sais, le sport, c'est tellement compatible avec plein d'affaires que tu peux remettre. Fait que oui, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. Là. C'est ça.
Et tiens, une petite question piège. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin?
Ce matin?
Oui.
Je me fais un smoothie. Ouais. C'est comme un jus blendé là, que je mange. Ouais.
À quoi?
Que...
je te prends par surprise. Hein?
Ouais, totalement. Aux petits fruits, dans le fond, j'aime bien ça. Là, bleuets, mûres, framboises, fraises.
J'imagine que... Est-ce que tu manges un petit peu plus lourd avant un entraînement ou non, tu t'en tiens à ton smoothie généralement?
Smoothie avec une petite collation, puis après ça, là, je suis correcte. Mais tu sais, c'est souvent, j'essaie de manger à peu près à toutes les 2 heures. Là.
OK, quand même, hein?
Ouais, quand même.
et ouais. quand tu nous parlais de tes études et ta carrière que tu veux faire après, est-ce que ça se fait de te demander qu'est-ce que tu prévois faire après ta carrière d'athlète? Ça, je veux dire, je t'amène loin un peu, mais quand même.
Ouais, pour l'instant, je suis un peu indécise dans quelle branche de business j'aimerais m'en aller. J'aime bien être... je suis une personne dans l'action aussi. Je suis une personne que gère quand même assez bien le stress. Fait que je regarde beaucoup pour la logistique peut-être, mais c'est ça, il manque encore des informations. Est-ce que je suis très beaucoup dans ce domaine-là ou non? Oui, ou je sais pas trop, mais c'est sûr que ça va être en business à quelque part là-dedans. Là. C'est sûr, c'est sûr.
Et dans tes projets aussi personnels, j'imagine que comme beaucoup d'athlètes, hein, c'est de construire ta vie, ta propre famille aussi après.
Oui, vraiment, c'est un de mes rêves de pouvoir trouver quelqu'un, construire ma famille. J'aimerais vraiment bâtir ma maison aussi un jour, de sorte que ça serait tout adapté à moi et non que moi je m'adapte aux autres. Là, dans ma maison, je veux vraiment que moi je puisse m'adapter puis que les autres s'adaptent à moi.
C'est bien ça.
Mais ça va venir un jour. Oui, c'est ça, exact.
ta fameuse phrase, Élodie, de moi c'est du 100 000 à l'heure ou rien du tout, ben on le reconnaît bien encore une fois dans ce que tu nous dis là.
Ouais, exact.
Et donc, faire ta propre famille en ce moment, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as un copain d'abord?
Non, j'ai pas de copain encore. Ouverte aux possibilités. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe dans ma vie, c'est un peu compliqué. J'aime ça vraiment se focusser sur... mais c'est faisable, c'est sûr. Il faut juste que trouver le parfait.
Oui.
Exact. Ouais.
Mais je te le souhaite parce que je comprends bien que, bon, en fait, tu es une fille qui ne fait pas les choses à moitié.
Non, c'est ça.
Mais donc, oui, c'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est je doute pas, en fait, qu'un jour, tu vas pouvoir trouver ton prince charmant, mais on sait très bien que tu fais tellement les choses, en fait, du mieux que tu peux. Le bon moment viendra en temps voulu.
Exactement. Vive, c'est ça, à un moment donné, on se dit, faut pas forcer la chose non plus. Je pense que ça va être là quand ça va être là. Puis, puis présentement, c'est correct comme ça, mais moi, ouais, j'espère bien, un jour. Mm-hmm.
Et pour finir, Élodie, est-ce qu'il y a un message que tu veux laisser à nos auditeurs, quelque chose pour les aider peut-être à garder la tête haute, à garder leur focus, puis de rester positif?
C'est sûr qu'avec la pandémie qui arrive, qui est encore là, malheureusement, que c'est pas facile de garder toujours le moral, mais écoute, essayez de garder vos objectifs. Moi, j'écris aussi, j'essaie d'écrire ce qui se passe dans ma vie, tout ça. Je pense que ça m'aide à surmonter des moments un peu plus difficiles. Mais ouais, toujours essayer de sourire, de trouver du positif dans chacun de vos journées, puis je pense que ça va vous aider là.
À garder le cap.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais merci infiniment, Élodie. Je te souhaite vraiment une belle suite dans ta carrière, autant sportive que dans tes études, évidemment dans ta vie amoureuse aussi, mais j'ai vraiment confiance en toi. Tu vas aller très loin. Merci infiniment, ma chère.
Un grand merci, Camille.
Au plaisir.
Une bonne journée à toute l'équipe.
Merci beaucoup.
Bye.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, j'ai le plaisir de recevoir mon deuxième invité, Serge Savoie. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Eh oui, Camille Chaille ici présente et j'ai hâte d'accueillir mon deuxième invité. Il a 50 ans, il habite à Chambly, il est conférencier non-voyant et coordonnateur de travail de rue pour l'organisme POSA, P-O-S-A, Source des Monts, et c'est Serge Savoie. Bonjour Serge.
Bonjour Camille.
Comment vous allez?
Très bien, et vous-même?
Eh oui, très bien, merci. Alors Serge, on découvre un peu votre univers et même votre vie aujourd'hui ensemble.
Oui.
Donc si on commence par le début, est-ce que vous pouvez nous parler de votre handicap?
Oui, moi j'ai un handicap visuel, comme vous avez mentionné, donc j'ai perdu la vue totalement environ 11 ans, il y a environ 11 ans de ça. Par contre, c'est ça, depuis ma naissance que j'ai des problèmes aux yeux, donc une déficience visuelle, mais disons que ça s'est accéléré pour finalement perdre la vue complètement à l'âge de 38 ans.
Voilà. 38 ans, donc il y a une vie avant et une vie après, si on peut dire
ça comme
ça.
Oui, voilà, exactement, et j'ai dû faire une réadaptation importante après avoir perdu la vue, mais oui, il y a le avant et il y a le après, effectivement.
Et là, donc ça, c'est une maladie congénitale.
Le glaucome.
D'accord, le fameux glaucome.
Oui. Il ne faut pas faire peur au monde. Là. C'est non. Pas parce qu'on a le glaucome qu'on va perdre la vue automatiquement, mais il faut suivre les indications de son médecin.
mais j'aimerais, je suis curieuse d'en savoir plus. C'est quoi justement les indications du médecin dans ces situations-là? Est-ce qu'il y a une façon de l'éviter ou de...
Oui, tout à fait. Dans le fond, quand on découvre, quand le médecin ou l'optométriste ou l'ophtalmologiste, peu importe, découvre que donc il y a une présence de pression intraoculaire trop haute, hein, parce que c'est ça le glaucome, c'est que la pression dans l'œil est trop forte. Donc, ils vont prescrire au début probablement des gouttes à mettre dans les yeux matin, soir, ou bon, peu importe, la posologie. Ensuite, il peut avoir des traitements aussi hautes, là, un peu plus invasifs, comme du laser, des trucs comme ça. Mais bon, dans certains cas comme le mien, ça dérape et ça va trop loin. Et là, il n'y a plus rien à faire après plusieurs... Dans mon cas, en tout cas, il y a eu plusieurs interventions à l'hôpital et tout ça, puis bref. Ça, mais ceci dit, je suis quand même un cas assez rare, il faut le dire. Là.
Et d'ailleurs, vous avez un frère?
Oui, j'ai un frère, effectivement.
Qui, lui, est-ce qu'il est aussi touché par cette maladie?
Oui, ben en fait, c'est ça. Nous, c'est dans la famille, mais c'est pas tous les membres. Là. Moi, ça vient du côté de ma mère, donc de son côté à elle aussi, c'était pas tous ses frères et sœurs qui avaient... Donc, mon frère a eu les cataractes congénitales comme moi au départ, mais lui, il est chanceux, il a pas développé pas le glaucome problématique comme le mien. Là. Disons qu'il est sous surveillance, on peut dire, là, parce qu'il est à risque, mais disons que pour lui, ça, à ce niveau-là, là, ça va quand même bien, oui.
Et donc, quand on parle de la vie d'avant, ben, vous lisiez, vous écriviez, ouais. Bon, comme
on faisait une voiture.
Oui, voilà. Toutes ces choses-là aujourd'hui sont évidemment impossibles, ou presque.
Ouais, ben, oui, c'est sûr. Ben, en fait, on peut faire un paquet de choses, là, mm-hmm. mais disons que conduire une voiture, ça n'en fait pas partie, sauf peut-être une fois par année pour le défi Mira, mais ça, c'est notre histoire.
Ah! Dans quelles circonstances?
Ben, en fait, c'est une levée de fonds que Mira fait depuis des années. Donc, c'est des personnes non-voyantes qui conduisent une voiture à l'autodrome de Grimbay.
Wow.
Puis, il y a une personnalité connue à ses côtés qui lui dit, donc, à gauche, à droite, break, avance, clenche, je ne sais trop. Là. Bref, je l'ai fait quelques fois, c'était bien amusant, mais voilà. Pas j'ai un chien guide. Ça. Je parle de Mira parce que j'ai pu bénéficier d'un bon chien guide.
Mais parlons-en justement parce que on voit évidemment, je veux dire, je pense que tout le monde connaît voilà, Mira, mais, mm-hmm. mais j'aimerais qu'on en apprenne plus sur cet univers justement du chien guide. Mm-hmm. Comment ça se passe? Parce que en fait, vous en avez un depuis combien de temps?
Moi, ça fait un peu plus de 8 ans que j'ai celui que j'ai actuellement. Naturellement, c'est mon premier. Puis oui, donc voilà. Et disons qu'il est en pré-retraite. Hein. Un chien Mira va, entre guillemets, travailler entre 6 et 8 ans à faire le guide. Donc moi, il a déjà dépassé sa limite. Mm. C'est dit, il est encore capable, mais bon, avec la pandémie et tout ça, on se promène un peu moins. Donc on va le préserver puis on va le garder plus longtemps comme ça.
Est-ce que c'est possible de le garder voilà,
oui,
pour toute sa vie?
Oui, dans la mesure où on ne va pas avoir un autre chien guide qui va arriver dans la maison au moment où l'ancien, si je peux dire, est encore là, ça ne pose pas de problème, ce qui va être mon cas, parce que là, avec la pandémie, excusez, il y a encore eu, il y a une liste d'attente chez Mira, malheureusement, plus longue, là, donc il serait peu probable là, que moi j'ai le temps d'aller faire ce qu'on appelle une classe chien, donc pour me faire attribuer un nouveau chien Mira, on va chez Mira à Sainte-Madeleine. On passe là, quand c'est ton premier chien, tu passes 4 semaines là-bas. Quand c'est un renouvellement qu'on appelle, c'est 2 semaines. Donc, moi, ça sera, je sais pas quand, mais éventuellement, je retournerai là. Mais c'est ça, dans le fond, pour être clair, c'est que chez Mira, ils recommandent pas que tu gardes l'ancien chien quand le nouveau arrive, parce que ça va faire des conflits, puis ça va être compliqué, puis voilà.
Et donc, si on l'appelle l'ancien chien, mais qui est un être adorable auquel on s'attache, je pense, complètement, il fait quoi, lui, après? Il s'en va où?
Ben, en fait, nous, comme je vous dis, on va le garder là, jusqu'à son décès. Là, je veux dire, on va y faire une belle vie jusqu'à la fin. Parce que c'est des chiens quand même à leur grosseur. Moi, c'est un chien d'à peu près 80 livres là, environ. C'est des chiens qui vivent environ 10-12 ans. Fait que moi, il y a déjà, il va avoir 11 ans là, dans quelques mois. Donc, faut comprendre que malheureusement, il n'y en a plus pour très, très, très longtemps. Mm-hmm. Mais donc voilà. Par contre, par exemple, quelqu'un qui voudrait renouveler rapidement puis tout ça, puis que pas. Ben, Mira peut reprendre le chien et l'attribuer à une famille d'accueil qui vont s'en occuper jusqu'à son décès, finalement.
D'accord.
Ou alors, dans notre cas, nous, admettons que je serais rentré avec un nouveau chien ici, ben moi, pendant quelques semaines, mon ancien chien serait allé chez de la famille, mettons.
Okay.
Le temps que le nouveau s'habitue, puis après ça, on l'aurait ramené. Nous, on n'aurait pas été capable de le redonner à quelqu'un d'autre. Là. Non, ma fille, qui quand elle est arrivée elle, au monde, le chien, bref, ma fille avait 1 an quand on est arrivé avec le chien, donc elle a rendu aujourd'hui à 10 ans presque, là, donc il n'est pas question que le chien sorte de la maison.
Oui, ça, on comprend tout à fait.
Voilà.
Et puis un chien, je veux dire, un chien Mira, mm-hmm. a besoin de combien de temps pour être dressé?
Ben, c'est ça. Et les chiens, au début, sont dans des familles d'accueil. Hein? Quand on les voit souvent, des petits papis Mira avec l'espèce de foulard rouge là, qu'ils ont dans le cou, bon, ils sont en socialisation. Ils font ça environ 10 mois à 1 an, famille d'accueil. Donc, quand ils arrivent à peu près à ça, là, 10, 11, 12 mois de vie, là, ils retournent chez Mira pour l'entraînement qui va durer environ un bon 10 mois. Je vous dirais, là, pour un chien guide, là, c'est ça. Parce que maintenant, Mira donne des chiens aussi pour d'autres, attribue des chiens pour d'autres, disons pour les troubles de les troubles du spectre de l'autisme.
Oui, oui.
Donc, il y a différents programmes maintenant, mais donc l'entraînement le plus difficile, c'est vraiment pour chiens guides. Et on parle, si je ne me trompe pas, là, presque 1 an, là, 10 mois faciles.
Mm.
Ouais.
Et vous nous avez parlé de votre fille, Olivia.
Oui, Olivia.
En fait, vous, est-ce que quand vous avez perdu la vue, est-ce que vous aviez déjà votre fille? Si on fait les calculs, non, c'est ça.
Non, exact. Ah oui, ça a été quelque chose, ça. Ben voilà, moi, je m'attendais pas là, à avoir d'enfants dans ma vie. J'avais comme mis un peu un X là-dessus. Puis en plus, là, je suis rendu non-voyant depuis quelques temps. Quand ma blonde, qui est devenue ma femme depuis le temps, m'a annoncé qu'elle est enceinte, comme on le dit souvent, quand on en parle ensemble ou on en parle comme ça en entrevue, la mâchoire s'est décrochée, disons moi.
Carrément, OK.
Je m'attendais pas à ça. Puis, c'était pas nécessairement après. J'avais la crainte dans les faits que, aussi, que dans le fond, qu'elle ait mes problèmes aux yeux. Mm. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Fait que je vais encore une fois toucher du bois pour que ça reste comme ça. Mm-hmm. Fait que, voilà, c'est ça. Donc, là, je l'ai jamais vue. C'est, la fois, on me demande.
C'était exactement, c'était ma prochaine question, oui.
C'est sûr que j'aimerais beaucoup ça. Les choses qui me manquent dans la vie, d'avoir des beaux paysages, d'avoir des belles choses, mais c'est sûr que de pouvoir voir ce que ma fille a l'air, ça me plairait, mais bon, voilà, je la vois autrement.
Est-ce qu'avec votre femme, justement, parce que je pense que vous êtes, je me permets de le dire, mais vous êtes très proche, puis du fait, vous le mentionnez vous-même, mais le fait que elle soit restée avec vous, hein, même si vous avez perdu la vue, mais c'est quand même une expérience de vie en soi.
Ah, tout à fait. On est toute une.
Ça rapproche énormément.
Oui, ça peut. Dans ce cas-ci, c'est ce qui est arrivé, mais ça peut aussi faire l'effet contraire. Moi, j'aurais cru qu'elle aurait pris des jambes à son cou, puis elle serait partie. Donc, grande preuve d'amour de sa part. Puis, c'est ce qui fait aussi, hein, je dis souvent, dans ma conférence, j'en parle de ça d'ailleurs, que si j'arrive à faire un tas de choses, puis ça, aujourd'hui, comme ça, c'est beaucoup grâce à l'amour que j'ai de ma femme, de ma famille, de mes amis, tout ça. C'est pour une réadaptation comme celle-là, mais je veux dire, dans plusieurs autres situations, je pense que c'est un des ingrédients qui est vraiment important, c'est celui-là, d'être bien entouré, de se sentir aimé et d'aimer aussi. Puis nous, on a la chance de vivre ça. Donc, pour moi, en tout cas, c'est une des grandes différences dans la vie qui fait que ça va bien ma vie versus ce que ça pourrait être autrement.
Oui, on le sait. Bon, c'est malheureusement le cas pour d'autres, mais ça me fait très plaisir de savoir que pour vous, Serge, c'est le grand amour et c'est ce qu'il y a de plus beau.
Tout à fait.
Et est-ce que ça vous arrive justement aussi avec votre femme des fois qu'elle prenne le temps d'essayer de vous décrire les traits de votre fille?
Ah oui, et de toutes choses aussi. Hein,
oui,
beaucoup
oui.
de vidéos, descriptions, de toutes sortes de choses. Puis oui, de ma fille, effectivement. Au début même, elle me faisait, j'osais pas trop y toucher avec mes mains dans le visage, puis tout ça, puis elle me prenait les doigts, puis regarde son petit nez, il est arrondi, les petites pommettes, puis elle me faisait faire le tour, comme on dit.
Wow.
Puis c'était bien parce que c'est ça, moi je suis quelqu'un qui osait pas trop, puis je voulais pas, j'avais peur de faire mal, ou d'y accrocher un œil, ou de mettre le doigt dans le nez, ou je sais pas quoi, là, puis bref, elle m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, oui, tout à fait.
C'est magnifique, ça m'en donne des frissons, je sais pas pour vous les auditeurs, mais ça me donne des frissons de vous entendre. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous êtes rencontrés avec votre femme?
Oui, en fait, on s'était rencontrés, on était tout jeunes, si on peut dire. Là, moi, j'avais 20 ans environ, elle avait 17 ans. On travaillait au même endroit, pour faire une petite publicité ici, là, pour une épicerie IGA à Chambly. Moi, j'étais emballeur à l'époque, et elle est arrivée comme caissière, puis elle m'a tombé dans l'œil, puis on s'était fréquentés dans ces années-là, puis après ça, la vie a fait qu'on s'était séparés, puis tout ça, elle a participé pour son côté. Elle a eu deux enfants, elle, d'une autre union, puis moi, c'est ça, moi, j'ai vécu d'autres choses à l'époque, puis tout ça. Puis à un moment donné, la vie a fait qu'on s'est retrouvés une dizaine d'années plus tard, puis voilà. Puis à ce moment-là, je voyais encore, mais j'avais commencé à avoir mes problèmes. Là, bref, le glaucome commençait à revenir pas mal dans mon œil qui voyait, puis elle a suivi toute cette péripétie-là, puis même jusqu'à ce que je perde la vue, puis comme je disais tantôt, qu'elle ne prenne pas les jambes à son cou, au contraire. Voilà. Ouais,
que c'est beau, c'est une très belle histoire.
Oui, effectivement. Je reconnais, effectivement, c'est spécial. Je suis bien content d'être un des personnages de cette histoire-là, effectivement.
Moi, je propose que pour se remettre de nos belles émotions, qu'on aille écouter une belle chanson et on revient tout de suite après.
There are places I remember
friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. Stop and think about them. In my life, I love you more.
Les aura reconnus, c'était les Beatles et leur chanson « In My Life ». Une chanson choisie par vous, Serge, en quel honneur?
Ah, ben, c'est une chanson que j'aime beaucoup, les Beatles en général. Mais disons que cette chanson-là, il y en a une partie d'ailleurs que je mets dans ma conférence, c'est que, ben, elle évoque, c'est ça, un peu ce qu'on parle depuis le début, hein, les choses qui nous sont arrivées dans la vie, les lieux, les personnes qui nous ont marqués au fur et à mesure que notre parcours de vie c'est fait, finalement.
Mm-hmm.
Puis c'est un peu, en fait, c'est beaucoup ça que je parle dans ma conférence sur mon parcours à moi, mon chemin, puis tout ça. Donc, cette chanson-là prend une place importante aussi quand même dans la conférence, mais sinon, dans ma vie, à moi, c'est une belle chanson que j'aime beaucoup.
Et parlons de votre conférence. Quel est le titre?
Le titre est « L'aveugle de Compostelle, c'est un gars de Chambly ».
Bien, intéressant, mais encore.
Ben, en fait, dans le titre, il y a les trois sujets principaux de la conférence. Donc, l'aveugle, ben, j'y parle de ma déficience visuelle qui a marqué ma vie, disons. Hein. Oui, oui, je suis devenu non-voyant, aveugle à l'âge adulte, mais quand même, il y a eu toutes sortes de péripéties. Et bon, je raconte ça, qui ont parti à l'enfance. Ensuite, Compostelle, ben oui, j'ai fait le chemin de Compostelle, mais c'est aussi Compostelle pour évoquer la spiritualité en général. Donc, c'est un élément dans ma vie qui prend de la place, qui a toujours pris une certaine place. Donc, je parle un peu de ça, ben, un peu beaucoup. Puis Chambly, ben, c'est l'endroit où je vis, c'est l'endroit que j'adore et je fais découvrir un peu ma vision de certains endroits de Chambly là, aux gens qui viendront à la conférence.
Ben là, j'avoue que ça donne envie d'en apprendre plus, ça donne envie d'assister à votre conférence aussi. Si les gens qui nous entendent veulent vous demander une conférence, comment ils peuvent le faire?
Ben en fait, c'est ça. Moi, là, actuellement, à cause de la pandémie, j'ai arrêté. Mais disons que le but est de la reprendre quand ce sera possible. Ici, à Chambly, je fais ça normalement à la ferme Guyon à Chambly, au coin des autoroutes 10 et 35, à Chambly même. Mais ceci dit, pour faire une conférence ailleurs, je serais très, très, très ouvert. Donc, on peut passer par la page Facebook Serge Savoie Conférencier. Puis, voilà, on peut me joindre de cette façon-là. Mais c'est sûr que disons, moi, j'aime beaucoup que les gens se déplacent à Chambly pour venir l'entendre, me voir l'entendre, mais tout va aux propositions. Voilà.
Mais est-ce que parce que justement, les déplacements pour un non-voyant, c'est du sport?
Oui, c'en est, mais on peut s'organiser. J'ai la chance d'avoir une femme qui peut m'accompagner puis, pour aller un peu partout. Donc, oui, mais sinon, c'est sûr que j'aime bien me débrouiller par moi-même puis rester dans mon petit coin que je connais bien. Là, mais ben, sinon, on peut quand même aller loin. Là, comme non-voyant avec le chien guide, justement, j'ai eu un temps où j'allais encore à l'Université de Montréal en partant de Chambly. Fait que tout est possible.
C'est une phrase que j'aime beaucoup, ça. Tout est possible quand on a la volonté, hein, malgré tout. Les limitations qu'on peut avoir ou les difficultés qu'on a dans une vie, ce qu'on a dans la tête, C'est pas mal puissant.
Effectivement, la volonté, c'est là pour beaucoup. Puis aussi l'aide qu'on peut aller chercher. Dans mon cas, j'ai dans ma réadaptation, j'ai eu beaucoup d'aide. Là, l'Institut Nazareth et Louis Braille et de d'autres organisations. Donc, on a cette chance-là ici au Québec d'avoir des services, mais il faut en profiter. Puis voilà, après ça, notre volonté plus l'aide, on peut aller loin.
J'ai tellement de questions, Serge. Je veux profiter de tout le temps qu'on a parce que vous avez une vie tellement remplie. J'ai envie de revenir rapidement sur la spiritualité. Qu'est-ce que vous auriez à nous partager qui nous ferait du bien à entendre en ce moment?
Ben, en fait, c'est très personnel, mais ceci dit, moi, c'est ça, comme j'explique dans la conférence, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu comme des grands questionnements, des grandes questions existentielles, puis tout ça. J'ai fait toutes sortes de recherches, toutes sortes de lectures, j'ai passé par toutes sortes de phases, si on peut dire, mais au bout de la ligne, j'ai une croyance dans le fait qu'il y a une force supérieure à nous autres, les êtres humains. Il y a un but au fait qu'on soit sur cette terre. Il y a un but aux choses difficiles qu'on vit. Il y a des enseignements à comprendre de tout ça. Puis moi, en fait, c'est comme ça que je le vois. C'est ce qui me donne aussi avec le reste que j'ai déjà nommé, mais c'est quand même ce qui me donne ma drive aussi pour continuer à avancer et pas m'apitoyer sur mon sort, puis rester écrasé par les tourments de la vie puis tout ça. Donc dans mon cas, en tout cas, c'est comme ça. Ceci dit, je suis bien important là dans la conférence. Je parle de ce que je crois puis tout ça, mais les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent.
Ah oui, complètement.
Je cherche pas à endoctriner personne, mais je partage tout simplement.
Voilà. Ben voilà, c'est ça le but, puis c'est tellement des belles choses, des belles images. Mais et parlant d'images, est-ce que pour un non-voyant, c'est important de cultiver l'imaginaire? Parce que j'imagine, vous avez une vision qui est complètement nulle, est-ce que c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Donc c'est quoi? C'est noir?
C'est gris foncé, gris pâle, selon un peu l'éclairage, si je peux dire. Là. C'est dans des tons de gris foncé. C'est pas fameux.
Mais donc, est-ce que l'imaginaire devient important à ce moment-là? Est-ce que c'est celui-là qui prend le dessus?
Oui. D'ailleurs, c'est un des thèmes que je parle ici dans la conférence. C'est-à-dire que moi, donc, comme je disais, j'ai vu jusqu'à 38 ans, j'ai une bonne banque d'images dans ma tête, qui s'amenuisent avec le temps, malheureusement. Ça, je savais pas ça au début, là, mais à force de plus voir, il y a de moins en moins d'images. Ceci dit, j'en ai encore pas mal. Là. Et j'étais un grand, grand tripeux de cinéma avant. Donc, j'ai souvent revoir des vieux films, ça me remet des images encore tout ça. Là. Mais et moi, quand je marche aussi à Chambly ou dans les endroits que je connais très bien, je connais bien Montréal aussi, au fur et à mesure que je déambule sur une rue, je me remémore. OK, il y a tel bâtiment ici. Il y avait une espèce d'arbre ici qui était tout penché. Je me force à revoir ces images-là pour justement les réimprimer toujours pour qu'elles restent le plus longtemps possible. Donc, après ça, l'imaginaire, on est chanceux de nos jours aussi au niveau de la technologie, puis on arrive à écouter la télévision, des séries télévisées avec la vidéo-description déjà intégrée dedans, les livres audio, les podcasts, tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a quand même beaucoup de... C'est blind friendly aussi, la vie, parfois.
Donc. Voilà, voilà. Mais Serge, justement, j'adore parce que je voulais parler de la technologie. Parce que vous avez un peu, en tout cas, c'est le lien que j'en ai fait, mais vous avez une anecdote à nous partager par rapport à un malaise que vous avez déjà pu vivre. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Vous nous avez parlé d'une situation dans le métro. En fait, vous êtes déjà arrivé de vous perdre dans le métro.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est pas tant la technologie, là, mais tu sais, c'est ça. J'allais à l'université à ce moment-là, comme je disais. Puis, à un moment donné, j'avais mon trajet avec lequel j'étais très habitué. Puis, un de ces matins, comme ça arrive de temps en temps, j'avais presque un escalier mobile qui était fermé. Donc, il y avait un détour à faire. Puis, ça n'a pas pris 5 minutes que je savais plus du tout où j'étais rendu.
Ça change des plans.
Ça change des plans, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, je demandais, je disais haut et fort, je disais haut et relativement fort, excusez, est-ce que j'aurais besoin d'aide? Et je sentais bien qu'il y avait l'air d'avoir des gens qui déambulaient, mais comme c'est souvent le cas dans le métro, les gens sont soit en train de regarder leur téléphone, ils ont des écouteurs dans les oreilles, bref, ça a pris... quelques minutes qui m'ont paru une heure et plus, où je demandais, je n'avais pas personne qui venait à m'aider, parce que j'avais vraiment à ce moment-là besoin qu'on me remette dans le droit chemin.
Oui, c'est le cas. Oui.
Fait que ça, finalement, ça a été fait. Là. Je m'en suis sorti, là, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était un bon stress, puis ça n'a pas été très agréable, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent.
Bien sûr, mais moi, le lien que je faisais au niveau de la technologie, c'est à quel point elle peut aider dans tous les outils qu'on a aujourd'hui, mais que dans cette situation-là, Serge, où la technologie, les gens l'ont dans les oreilles, les écouteurs, on est un petit peu isolé. Donc, pour un non-voyant, pour rentrer en contact avec une personne qui est plutôt dans sa bulle, ça devient... Non, c'est ça, c'est un enjeu.
Surtout dans le métro, je dirais que c'est vraiment là le pire. On dirait, je sais pas, il y a comme quelque chose qui fait que... Puis moi-même, à l'époque que je voyais, j'utilisais le métro, j'avais toujours mes écouteurs dans... On est dans notre bulle, puis ça. C'est parce que sinon, en général, t'arrives au coin d'une rue à pied, puis tout ça, ça, assez facilement, les gens vont venir demander si on a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Donc, ça se fait quand même assez bien. Là. Quelqu'un qui perdrait la vue ces temps-ci, il faut quand même savoir que les gens sont avenants, puis ils veulent nous aider. Parfois, ils sont un peu malhabiles, là, mais ça, c'est correct. Là. Je veux dire, en général, ça va bien. Mais bon, il est arrivé quelques anecdotes, naturellement, où... Ça n'a pas toujours été super agréable, mais c'est une minorité. Là. Le reste du temps, ça va très, très bien.
Ouais, tant mieux. On espère que ça reste comme ça, malgré tout. Oui. Je l'ai dit, j'ai trop de questions. On n'a pas assez de temps pour le nombre de questions. On n'a pas... En fait, j'aimerais parler un peu de votre travail.
Oui.
Parce que, donc, étant donc, travailleur de rue pour l'organisme POSA, donc P-O-S-A, Source des Monts, c'est quoi exactement?
Mais en fait, l'organisme POSA sur ce démo, POSA pour Porte ouverte sur l'avenir, donc c'est un organisme que j'ai cofondé avec d'autres personnes au début des années 2000, puis donc j'en étais le directeur général, puis lorsque j'ai perdu la vue, je me suis, déjà même un petit peu avant ça, je voulais me réorienter, j'avais fait un peu le tour là, de l'administration, moi je suis à la base un psychoéducateur, donc quelqu'un en relation d'aide et tout ça, donc. Fait que bref, faire une histoire courte, travailleurs de rue, c'est des intervenants qui vont à la rencontre des gens là où ils sont, plutôt que d'avoir un intervenant dans un CLSC, par exemple, qui prend des rendez-vous, reçoit les gens dans son bureau, les travailleurs de rue, ils vont à la rencontre des gens et souvent, on va cibler les gens qui sont en rupture avec le système, donc des gens un peu plus marginaux, tout ça, des jeunes adultes et tout ça. Moi, j'ai déjà fait du travail de rue à mes débuts, justement, qu'on a fondé cet organisme-là. J'étais moi-même un travailleur de rue à l'époque, quand je voyais, naturellement. Donc, tranquillement, pas vite, j'avais développé une expertise, puis à un moment donné, l'organisme avait besoin là, d'une personne à la coordination, donc de gérer les horaires, les territoires, aider à faire des demandes de subventions, et surtout, le plus important dans ce travail-là, c'est la supervision clinique des travailleurs de rue, parce que par définition, ils sont seuls à aller vers les gens, puis ils vivent toutes sortes de situations parfois difficiles, parfois complexes, et donc ils ont besoin d'échanger avec quelqu'un pour être sûr qu'ils sont bien sur la bonne track, on peut dire, en résumé, c'est ça mon travail.
Magnifique, c'est très beau. J'aurais envie de terminer avec une dernière courte question.
Oui.
Est-ce que le fait, donc, encore une fois, d'être non-voyant, on développe d'autres sens, est-ce que, malgré que vous ne puissiez pas voir les gens ou leur visage, est-ce que vous captez ou vous sentez des émotions ou des choses, malgré tout, chez les gens à qui vous parlez, vos proches?
Oui, je veux dire, dans les tons de voix, là, quand on se parle comme là, on se parle au téléphone, nous, je veux dire, je vais être en mesure, comme vous l'êtes aussi, à un moment donné, de capter, OK, le ton vient de changer, je sais pas, la personne est rentrée dans quelque chose, j'étais touché une corde sensible, la personne s'est comme un peu refermée, fait que tout ça, on arrive à le capter, comme n'importe qui d'autre, à un moment donné, le meilleur exemple, c'est quand une personne voyante parle au téléphone avec une autre personne, jusqu'à un certain point, elle est aveugle, elle aussi, de l'autre personne, elle la voit pas, là, tu sais. Donc, mais pour ça, oui, ceci dit, beaucoup de communication non-verbale, la personne est devant soi, la communication, c'est ce qu'on dit, mais c'est ce qui se passe dans nos gestes et tout ça. Tout ce bout-là, on le manque, nous, comme non-voyants, c'est bien évident, mais voilà, c'est ça. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Non, c'est exactement, on a effectivement plus de temps, mais merci infiniment, Serge, j'ai adoré entendre tout ce que tu avais à nous dire aujourd'hui.
Merci, c'est une belle entrevue. Merci à toi, Camille.
Et merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur le site canalm.visezvoix.com. À la semaine prochaine.